Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a des facio des fois. Moi, j'ai jamais des facio parce que j'ai des facio, je prends 10 mètres.
Monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h06, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, messieurs, dames. Nous allons maintenant revenir à notre bonne vieille Ligue 1, après avoir parlé Ligue des Champions pendant une heure, et donc de cette semaine franco-portugaise qui arrive. Et on va parler de ces coachs qui vont pas très fort, enfin parce que surtout leur équipe va pas très fort. On a parlé hier soir longuement de Peter Bosz après la défaite lyonnaise, la quatrième d'affilée hier soir à Lens. Florent veut revenir sur la situation de ces coachs tout de suite. Je vous propose donc un nouveau jingle. Florent Gautreau.
Salut à tous, c'est Gilbert Bribois. La boucle d'oreille de Maradona a adjugé 25 000 euros.
On s'amuse quand je suis pas là. Hein.
Tout à fait. Je serais curieux d'avoir la date de l'émission. Un truc style 2009.
Ça sent l'after d'été en roue libre.
Non, parce qu'il y a Daniel.
Ah, il y a Daniel qui est là.
Donc l'été, moins. Enfin bon, statistiquement, c'est moins sûr. Ouais.
Bon, donc tu voulais parler de cette valse des coachs, ouais, qui, selon toi, va commencer bientôt là.
Bah déjà, plusieurs raisons au fait que je pense que la valse d'entraîneur peut commencer bientôt. Elle peut être plus violente, la vague peut être plus violente que les autres années. Et il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, là, on est à 9 journées. Il n'y a pas eu le côté, tu sais, le coup de sang du président qui fait n'importe quoi au bout de 4-5 jours d'essai. On n'a plus trop ça, ce truc-là qui existait en France à la Gérard Banide avec Tapie, les trucs comme ça. Bon, c'est un peu fini. Donc, on est à 9 journées, c'est crédible. 9 journées, tu peux dire.
D'habitude, t'as regardé, ça part avant. Hein.
Ouais, justement, là, le délai de descente s'est passé. Hein. Donc, tu te dis, là, c'est crédible.
Attention,
tu peux juger
avant,
sur
souvent, ça partait avant parce que trêve internationale plus précoce d'habitude.
Ouais, mais justement.
15 jours plus tôt, là, ça a changé.
Tu vas voir, tu vas voir la suite. Plus Pierre Repellini pour s'indigner.
Il y a personne été viré. Attends, qu'il y a un mec viré, on verra s'il s'indigne.
Il s'indigne beaucoup moins qu'avant.
Alors, donc la première raison, c'est que tu as 9 journées de fête, que tu as donc un bilan qui peut être tiré. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Tu peux commencer à faire ce bilan et à dire il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. La deuxième raison, c'est évidemment pour les candidats habituels, ceux qui jouent le maintien, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, donc plus tendu pour les dirigeants, parce qu'il y a 4 descentes. Bon, ça c'est mathématique. Ça va être très très dur.
Ça tend beaucoup plus ces situations.
Ah, ça tend les dirigeants, et c'est normal. C'est vrai que tu peux pas perdre de temps, parce que tu sais que si tu es trop vite dans le dur, bah t'as moins de chances de t'en sortir. C'est mathématique. T'as 4 descentes directes, ça c'est plus compliqué. Et puis après t'as la petite cerise sur le gâteau, je dirais, pour ma liste, c'est les clubs qui sont censés jouer le haut de tableau et qui le jouent pas du tout ou pas bien, à la fois sur le classement en termes de jeu. Je pense à Nice et Lyon. D'ailleurs, Favre et Bosz sont déjà ou ont été déjà menacés très tôt. Favre, on a pensé même qu'il y a 10 jours qu'il allait.
Le premier menacé fut Irles.
Ouais, mais là,
qui s'en est sorti.
Ouais. Mais dans la catégorie des clubs censés jouer plus haut, Nice, Lyon, ça fait déjà 2 gros clubs dont on pensait que ça allait pas être le cas cette année, ou pas si vite, et ils sont déjà effectivement ils sont déjà menacés.
Si on s'inquiétait à Strasbourg, Stéphane pourrait être menacé, mais comme personne ne s'inquiète, pas de problème.
Non, attends, la liste des menacés, bah tu vas la faire.
Juste pour terminer, il y a une raison évidemment supplémentaire à ce que cette valse soit importante et grande, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de trêve. Mais il y a une énorme trêve qui arrive, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire que t'as une intersaison au milieu de la saison. T'avais pas ça. Là, t'as le temps de changer.
Parce qu'en plus, t'as plein de joueurs, là, la plupart, ils vont être en vacances, quoi. Il y a un paquet qui va être en vacances.
T'as des vacances, t'as des entraîneurs. Tu changes ton entraîneur. T'as le temps de faire une intersaison complète, une nouvelle prépa, des nouveaux schémas. Donc,
on l'a peu dit, ça. T'as raison de dire ça. C'est vrai, ça peut laisser plein de gens retravailler, recommencer limite une saison.
Je pense même que là, tu vois, c'est le 18 novembre, c'est ça, la Coupe du Monde.
En fait, il y a un mois et une semaine. Tu peux recommencer une saison.
Et là, du 3 octobre au 18 novembre, t'as certains qui peuvent se dire, pour ceux qui seront patients, au moment de juste avant la Coupe du Monde, si on n'est pas dans le bon timing, on change et on refait une demi-saison différente. Donc ça, c'est les arguments pour lesquels il y aura beaucoup de coachs, à mon avis, et rapidement, qui peuvent tomber. Et ensuite, le petit jeu, c'est de s'amuser à savoir qui et dans quel ordre, parce que c'est ça qui est c'est pas facile. Si tu te fais un quintet, parce que souvent en moyenne, voilà, c'est ça, hein, t'as un quart de la promotion ou 4-5 qui vont tomber. Ah oui, non, j'ai un dernier argument, c'est le président justement un petit peu impulsif qui a quand même la gâchette facile et j'ai mis dans cette catégorie Kita et Comboiré, parce que je mets une petite pièce sur cette histoire d'amour vache qui va, à mon avis, pas aller très très loin, pour plein de raisons, hein, pas seulement le classement.
Nantes européen et qui sort d'une très belle saison est 16e, avec 7 points en 9 matchs.
Et on sait que Comboiré, Kita, déjà à la fin de la finale, c'était compliqué, alors que là, il a
avec un Blas qui a même pas démarré le match à Monaco, qui est pourtant le joueur clé de cette équipe normalement. Ils vont jouer Coupe d'Europe jeudi, ça va à chaque fois leur pomper de l'énergie. Alors, attention à Nantes. Hein.
Le petit prono, vous pouvez vous amuser. Moi, je mets les plus menacés sont ceux qui sont dans les gros clubs, c'est-à-dire Boss et Favre. Pour moi, c'est plus dur parce qu'il faut aller vite.
Boss, il a la tête à partir pendant la trêve, pendant la pause d'un mois et demi là, et parce
Favre
que t'as le temps. Et
Favre, il est pas bien.
Et en plus, Lyon perd pas beaucoup de joueurs. Hein. Il y a pas beaucoup. Tu sais que Lyon, il y a pas beaucoup d'internationaux, hein, mine de rien.
Après, je mettrai derrière.
Il y a quand même le grand Toko Ekambi.
Oui, évidemment, le grand Toko Ekambi, mais à part ça.
D'ailleurs, au passage, t'as vu à qui Lacazette a donné son brassard, ce qui a dû faire grincer des dents chez les supporters lyonnais de manière supplémentaire par rapport à la défaite, parce que Lacazette a donné le brassard à Karl Toko Ekambi. Bon, c'était peut-être une histoire de proximité.
Tagliafico ?
Non.
Toko Ekambi. Oui, il part bien sûr avec l'argent. Il part avec l'Argentine. Ouais.
Lopez, il va plus en sélection portugaise.
Non, il n'y a pas. Ils perdent pas grand monde, ils perdent pas au milieu ni Cacré.
L'été n'est pas dans la sélection du Brésil.
Non, l'enfant là, il va nulle part là.
Ah bah, il a S et la sport scolaire.
Il rentrera peut-être chez ses parents.
Il a sport scolaire.
La sport scolaire avec.
Il fera un stage, je pense qu'il fera un stage.
Il a un stage d'escalade en UNSS.
Il fera un stage.
Avec à l'UNSS Niçois, avec le petit niçois, comment il s'appelait
Cosiello.
Avec Cosiello.
Ah, il part à l'UCPA.
Mais l'UNSS, mené de main de maître désormais par Olivier Giraud, vous le savez. Ils ont l'UNSS.
Alors moi, j'ai juste.
Donc pas la Lacazette non plus.
Juste pour finir, prono des entraîneurs, je mets une petite pièce sur Baticle aussi, avec Angers.
Ah.
Ok, ça va être compliqué. Alors qu'ils sont pas relégables aujourd'hui.
Donc toi, hein, ton triplé, c'est Lyon, Nice, Angers.
Ouais, et je rajoute Comboiré parce que Kita, je sens que ça, ils vont péter une durite, ils vont nous faire une belle histoire.
Donc ce qui est marrant, c'est que sur les quatre derniers du classement.
Ouais, pour l'instant.
Reims, Brest, Strasbourg, Ajaccio.
Ajaccio, ils ont rien à faire. De toute façon, ils savent qu'ils sont là en touriste et ils sont relégués.
Il y a une raison à ça. Ajaccio, effectivement, jouait, entre guillemets, pour essayer de pas descendre, mais craignait de redescendre.
Oui, il y a une fidélité.
Avec l'équipe, il les a fait monter, c'est déjà remarquable. Je les vois mal le virer, à moins qu'il y ait un problème particulier. Ensuite, tu as des
Strasbourg.
Équipes qui sont.
On n'est pas inquiet.
Si, t'as raison. C'est ceux qui, pour qui c'est le plus dangereux, c'est ceux qui ne devraient pas se retrouver à cette place-là. C'est-à-dire que c'est moins dangereux pour Pantaloni à Ajaccio que pour Stéphane à Strasbourg, effectivement.
Donc, Stéphane à Strasbourg ne sera pas viré, hein, je vous lance tout de suite.
C'est vrai.
Parce que déjà, un, c'est pas c'est de Marc Keller. De virant en cours de saison. Et deux, il est hors de question pour le club de payer un an et demi de contrat à un gars, parce qu'il lui reste un an et demi de contrat. Donc, parce que c'est que vous connaissez la règle des CDD, bien sûr, en France. Donc, il faut payer. Donc,
ça ne bougera pas. Il y a quand même des équipes dans cette Ligue 1. Flo a évoqué tous les clubs pour qui ça ne va pas. Mais Nice, 8 points, 9 matchs. Nantes, 7 points en 9 matchs. Strasbourg, 5 points en 9 matchs. C'est des parcours calamiteux.
Bien sûr.
Vraiment,
on est
très, très mauvais.
Hein, ça va vite. Hein.
C'est très mauvais. C'est même pas des parcours de relégables. C'est des parcours à moins d'un point par match, tout
et
ça,
Daniel,
là, pour ces équipes-là.
Les 8 dernières
c'est
équipes,
terrible.
Ce soir, les 8 dernières équipes se tiennent en 4 points. Enfin, 5 si tu comptes l'intervalle. Mais si tu veux, voilà, en 4-5 points, tu as 8 équipes, de la 20e à la. 11e ou 12e.
Et dans le haut, t'as pratiquement 5 équipes qui ont une moyenne à 2 points par match. Je mets Monaco qui est 17 points en 9 matchs. Allez, je gratte un peu de ce côté-là. Mais derrière, ça descend vite. Hein. Le trou se fait. T'as un niveau qui tire vraiment vers le bas de l'autre côté. Hein. T'as une tripotée d'équipes à peine un point par match et beaucoup, dès la 13e place, t'es à moins d'un point par match. Quoi. C'est très très faible. Avec dans ce paquet-là, deux équipes qui jouent la Coupe d'Europe quand même. Voilà où on en est.
Tiens, on a Nassim au 32-16 qui est là. Ah, attendez, on va retrouver Nassim dans quelques instants. On fait une courte pause, 1 minute 21 pour être exact. Et ensuite, Nassim donnera son avis sur cette valse des coachs. Il y a le club dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Hein. On n'a pas parlé d'Auxerre, par exemple. On n'a pas reparlé d'Irles. On n'a pas parlé de Montpellier, ça a été chaud à un moment pour Dalaglio.
3 et 11e, 11 points, 9 matchs, tout roule. Mais même Auxerre, 14e, quand tu vois les équipes qu'il y a derrière, tu vas pas chambouler le club, tout va bien pour eux. Et Clermont, Clermont c'est incroyable, 9e.
Sur Nantes, peut-être qu'il y a des pièces à mettre sur d'autres.
Il y a peut-être des pièces à mettre. T'as raison. Non, là, j'insiste sur le fait qu'il faut chercher les clubs pour lesquels il y a déception forte des dirigeants. Daniel a raison. Si t'es 14e, 12e, alors que tu joues le maintien, tu vas pas virer ton coach. En revanche, là, t'as raison. Montpellier. Tu prends beaucoup de buts. Les supporters sont furieux.
Ouais, ils sont dixième. C'est beaucoup plus critique pour un club. Je ne sais pas si vous rendez compte qu'en ce moment, Nice est en train de construire en pleine saison le club. Ça, c'est complètement dingue.
C'est énorme coup quand même.
Pardon ?
Gros coup quand même, en l'occurrence.
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, ça m'inquiète vraiment pour Lens.
Bien sûr.
Mais en pleine saison, ils vont profiter probablement de la Coupe du Monde pour changer l'entraîneur, pour probablement préparer un recrutement pour le mercato parce qu'ils vont mettre de l'argent. Nouveau directeur sportif, donc on a appris aujourd'hui Ghisolfi, et ça franchement je suis tombé de l'armoire, que Ghisolfi quitte Lens où il a fait un travail absolument fantastique ces dernières années. C'est un énorme coup dur pour les Lensois.
On en reparlera tout à l'heure.
Très bonne pioche pour Nice. Ils vont virer l'entraîneur. Ils vont installer un directeur sportif parce que celui qu'ils ont en ce moment, là, le mec du vélo, bon, j'imagine ils ont compris que ça collait pas.
C'est dire quand même.
C'est curieux, on disait que cette saison il allait y avoir des choses un peu étonnantes du fait de la Coupe du Monde en plein milieu. Je pense qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu des choses très étonnantes qu'on allait voir cette saison.
Allez, on continue le débat avec Nassim dans l'after dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Laurent Gautreau, Daniel Riolo, ils sont là jusqu'à minuit, les 23h18, on parle de la Ligue 1 et des clubs en difficulté qui pourraient pourquoi pas changer leur coach. Nassim est là, avant d'accueillir ensuite Thierry au 32-16. Nassim, bonsoir.
Bonsoir Nasser.
Nassim, supporter de Lyon.
Mm-hmm.
Condoléances.
Malheureusement.
Bon, t'as Peter Boss pour toi, tu lâches en race campagne là ou tu t'accroches encore un peu?
Non, c'est terminé.
Donc pour toi, Lyon sera le premier à changer?
Non. Ah, parce qu'il y a un argument de taille.
Ah, on y va.
La vente du club.
Eh oui.
Donc, qui est décisionnaire, qui ne l'est plus. Je pense que s'il n'y avait pas la vente du club, ce serait déjà fait, à mon avis. Mais là, qui va prendre la responsabilité de payer la fin de contrat de Peter, etc. Donc, c'est pour ça que moi, avant la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il parte. Même si à ces matchs, ça fait beaucoup.
C'est pas con ce que tu dis, parce qu'en pleine période de vente, comme c'est en train de se passer là, je pense qu'effectivement, ils ne peuvent pas virer Peter Boss là, en ce moment. C'est compliqué. T'as raison, c'est un truc qu'on n'a pas dit hier, mais t'as raison de le dire.
Donc voilà, je pense pas que ce sera le premier. Et puis même si demain il y a une vente, il y a un départ de Peter, c'est qu'est-ce que tu fais derrière, quels sont vont être tes choix stratégiques, quel type d'entraîneur. Parce qu'en fait, c'est pas juste tu dégages Peter, c'est derrière qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu prends juste un entraîneur tout seul, un entraîneur du club,
c'est ça.
Un entraîneur avec du
staff. Alors Laurent Blanc Gasset ou Laurent Blanc Franck Passy?
Pour moi, c'est blanc bonnet, mais bon, écoute, je...
Non, mais là où t'as raison, c'est que...
C'est bon, blanc bonnet pour Laurent Blanc.
Blanc bonnet. C'est que, vu qu'il y a cette fenêtre de la Coupe du Monde, qu'à la vente, autant prendre du temps pour prendre, entre guillemets, un vrai entraîneur et pas forcément une solution intermédiaire prise sous la...
Tu sous-entends que Laurent Blanc n'est plus un vrai entraîneur?
Je pense qu'il y a mieux sur le marché. Enfin non, sur le marché, il n'y a pas forcément beaucoup, mais il y a sans doute plus, on va dire, comment dire... Moyen d'être plus imaginatif.
Créatif,
ouais.
Ouais, c'est pas notre qualité première d'être imaginatif.
Déjà, ah si, avec Boss, ça l'était.
Quelque part, c'était un peu créatif.
Il faut reconnaître qu'on, nous, on y a cru.
Mais c'était, pour le président, tu vois ça comme un échec. Donc, est-ce que tu repars dans le même, dans la même
idée? Oui, mais parce que tu sais pourquoi tu vois ça comme un échec, parce que le président l'a fait de n'importe comment. Il a été créatif parce qu'on lui a dit à un moment donné, faut être créatif. Il a pas dit, je vais mettre en place une politique sportive qui va partir du principe que je mets en place, comme à Lens, par exemple, un directeur sportif, un jeu qu'on va décliner à tous les étages du club avec une direction sportive composée de un tel. Non. Ils ont fait des choix un peu à la va comme je te pousse. Un jour Juninho a dit sous Silvinho, ah bah oui très bien, tiens pourquoi pas. Et puis après maintenant Boss, ah bah oui parce que ça fait longtemps qu'on nous dit un étranger qui a des idées un petit peu modernes, d'ailleurs tous les clubs français s'y mettent, mais c'est pas fait de manière réfléchie, pensée, et t'as pas la cellule qui va avec pour le recrutement, donc forcément ça marche pas.
Comment ça on n'a pas la cellule? On a le...
Ah non, t'as pas la cellule, hein, t'as Bruno Chéroux dans son bureau, mais on sait pas ce qu'il fait.
Fait du one man show.
c'est l'homme qui passait plus de temps en Turquie qu'au Groupama Stadium.
D'ailleurs, vous avez vu l'analyse de Sidney Govou au passage. On lui a posé des questions sur la situation lyonnaise.
Bientôt dans l'after, Sidney Govou. Il sort un livre.
Intéressant parce que.
Avec Edouard G, le grand Edouard G.
Il mâche pas ses mots et c'est assez intéressant. Et il fait effectivement.
Le 19 octobre, il sera.
Y compris sur Ponceau et chez.
Mais il a carrément dit que l'OL serait pas dans le top 4 ni top 5.
D'ailleurs, je crois qu'il est un peu fâché avec le club, là, c'est pas ce que j'ai compris.
Ah bah là, il va.
Oui, j'ai l'impression. Ouais, mais enfin, en même temps, si le club, le problème, c'est ça, c'est que le club, c'est en train de se fâcher avec tout le monde. Juninho, tu l'as vu l'autre jour, là, encore sur Ponceau. Enfin, c'est terrible, quoi. On est en train de parler Govou, Juninho, on est en train de parler de deux légendes du club. Qui ont, dans les années 2000, ont marqué l'histoire de ce club, qui ont vécu les grandes années. C'est pas normal que ces deux joueurs-là soient fâchés avec le club. Et ceux qui sont aux manettes aujourd'hui sont des gars qui n'ont rien à voir avec le club, que ce soit Ponceau ou Chérou. Enfin, c'est pas normal qu'on soit dans cette situation à l'OL. Et conclusion de cette histoire, hier, Aulas qui dit stop au bashing de l'OL. Mais bashing de quoi ? Bashing, c'est quand c'est pas légitime, quand c'est exagéré, quand c'est pas juste. Mais là, tu veux dire quoi ? Tu veux dire du bien de l'OL ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif aujourd'hui?
J'ai une suggestion, Nassim, pour la suite. S'il y a un Lyonnais là, qui veut se lancer comme coach numéro 1, c'est Bétoni, David Bétoni, qu'on avait reçu dans l'after.
Ouais.
Il est Lyonnais. Je le précise, il est assez impressionnant.
Ouais, non, mais il faut. Encore une fois, on va arrêter avec les Lyonnais. Il faut un coach étranger avec tout son staff pour qu'on sorte totalement de l'histoire c'est ça en fait le problème. Il faut une rigueur qui manque peut-être en France, dans tous les clubs je trouve moi, et il faut un coach rigoureux avec de l'agnac, comme on les Marseillais, mais avec tout son taf, c'est-à-dire qu'il vient avec des personnes de confiance, et quand le gars il bouge d'une oreille, et ben le joueur hop.
Tu as remarqué que c'est le thème de l'année. On l'avait remarqué avec Galtier et Tudor. Paris et Marseille, qui occupent les deux premières places du classement, ont fait ce choix. On peut critiquer, on peut dire que c'est pas suffisant, que c'est pas des coachs qui ont qui prônent un jeu suffisamment brillant. On peut avoir ce débat-là. Mais n'empêche que les équipes cherchent à rétablir l'institution,
l'autorité.
De l'autorité au sein d'un club.
Enfin, à Paris, c'est Campos qui est venu pour ça.
Peut-être, mais n'empêche que c'est marrant ce thème. C'est intéressant. Tu vois, tu le dis, toi, en tant que supporter, et t'as raison. T'as envie avant tout. Les gens vont te dire, oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est du beau jeu. Oui, mais c'est vrai aussi que quand Longoria fait sa mise au point très juste en disant, il y a les joueurs, avec son petit cheveu sur la langue, il y a les joueurs, il y a l'entraîneur, il y a le président, et au-dessus, il y a le club. Et voilà. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait qu'il y ait l'église au centre du village. Et c'est vrai que le thème de l'année, c'est de dire, remettons ayons la main mise sur les joueurs, sur tous ces gars qui ont tendance à sortir du cadre. T'es obligé d'en passer par là. Je dirais même que c'est sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as envie de te dire, tu mets tes mômes à l'école, tu dis avant tout, t'as envie que ce soit tenu, t'as pas envie que ce soit le bordel, t'as au moins envie qu'ils apprennent des règles de vie, tu vois, un peu claires, parce que t'as l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est dingue, c'est peut-être un peu fou et insuffisant et un peu triste parce que t'es pas tout de suite à parler de jeu et à parler de jeu brillant et de grands tacticiens, mais t'as besoin de ça d'abord.
Comme tu l'as dit, c'est un peu sociétal en France aujourd'hui, ce besoin d'autorité.
Et Boss, il est arrivé là-dedans, comme dans une école d'un quartier difficile. Il a dit, putain, j'ai halluciné dans le vestiaire, c'était n'importe quoi. Boateng s'est pris le chou avec les mecs. C'est parti en sucette. Sauf qu'il ne faut pas un boss qui regarde ça en disant, c'est pas possible, et qui observe ça avec un air de sociologue. Il faut un coach qui, à la Tudor, dit, vous n'êtes pas content, tu vas sur le banc. T'es pas content, tu sors. Tu reviendras quand tu seras bon, etc.
Et soutenu par un président, comme
oui,
Longoria.
C'est dur.
Parce que là, à Lyon, tu sais pas qui soutient qui. Ça, c'est un vrai problème.
Messieurs, je remercie Nassim. Et je dis à très bientôt dans l'after. J'ai Thierry qui est là également, qui est supporter de Strasbourg. Salut Thierry.
Ah, il n'est pas inquiet.
Salut les amis.
Thierry, moi je vais te laisser la parole parce que j'arrête pas de me faire chambrer là. Donc,
non, t'es pas inquiet, Thierry.
Exactement,
tout va bien.
Je viens à ton soutien,
nous t'écoutons. Est-ce que t'es inquiet?
Pas inquiet.
Alors, honnêtement, il y a quand même une petite brise d'inquiétude. Ça, je vais être totalement honnête, il y a quand même une petite brise d'inquiétude. Quand tu vas à la Méno depuis le début de saison, tu te dis purée, il y a rien qui tourne pour nous. Par contre,
normalement, tu dois pas dire purée, tu dois dire choucroute déjà.
Ouais, mais je dis par contre, donc ça va. Ouais. Non, je pense je crois que c'est Daniel ou Flo qui l'a dit avant. Je pense que cette trêve internationale avec la Coupe du Monde peut vraiment nous faire du bien. Et je pense vraiment que comme le club est structuré, je pense qu'on peut se maintenir cette année, mais je pense néanmoins que ça va être très chaud. Je pense qu'on peut terminer 14-15e. Mais que par rapport à l'année dernière où effectivement on a surperformé, je pense que les objectifs du club qui cette année étaient de finir entre 8 et 12e, Keller il l'a dit encore il y a quelques semaines, les objectifs étaient trop hauts, on s'est vu trop beau et là je pense qu'on a juste le juste retour à une réalité que Strasbourg est un club qui joue le maintien en fait.
Et un peu plus.
Voilà, et on sous-performe et voilà, et du coup je pense que c'est un peu le retour de bâton. Et je pense que le mois à venir va encore être difficile, mais après la Coupe du Monde, mon petit doigt me dit qu'on va quand même réussir à se maintenir et faire une deuxième partie de saison. Peut-être un peu comme Brest, qui a fait l'année dernière. Brest n'avait pas gagné avant la 12e journée. Et finalement, c'est maintenant.
Oh, monsieur, à Strasbourg, maintenant, on se compare à Brest. Fallait me prévenir, moi. Je sais pas. J'ai cru que Strasbourg, ça devait devenir un club important. J'ai cru que Strasbourg, il y avait un peu d'ambition. Si Brest, c'est le pavillon témoin, l'équipe qui sert d'exemple, bah, y a pas de problème. Pourquoi vous m'avez pas prévenu?
Non, c'est pas
le. Fallait me prévenir que Strasbourg, c'était Brest, le modèle.
Non, c'est pas du tout Brest, le
modèle. Thierry, dis-lui ce modèle, c'est le Bayern.
Oui, ah ouais, parce qu'on a fait à la méno.
Là.
Il y a de la marge.
Là, c'est même pas le karting.
C'est un modèle.
Là, c'est même pas le karting.
C'est un modèle. Tu peux
la voiture
bien,
en plastique. Là.
Tu peux très bien vouloir viser l'excellence à moyen terme. Voyez-vous.
Alors, juste un mot. Et là, je te rejoins, Gilbert. Et c'est Thierry, c'est ça?
Oui, c'est Thierry.
Thierry et Gilbert, je pense effectivement que ce serait une connerie de virer Stéphane. Que c'est les soubresauts d'une équipe et de la croissance d'une équipe. Et qu'ils ont largement les moyens de se maintenir. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça la réalité de Strasbourg. Oui. Autant je pense qu'ils étaient effectivement en
surperformance. Pour rentrer un peu dans les détails.
Donc, je suis assez d'accord avec toi, Gilbert. Je suis pas très inquiet et je pense que ce serait une énorme bêtise, même en dehors des problèmes.
Pour rentrer dans les détails, tu as deux joueurs très importants qui aujourd'hui sont sous-performe. Ajork, tête à l'envers, à cause du mercato. Il se voyait se barrer, voilà, il devait partir, il n'y a pas d'offre, bref.
Et alors, il fait quoi, 9e journée, il continue à chialer, il ne joue pas?
Non, mais ça y est, là, il va se relancer, ça va revenir.
Okay. Thomasson, Bourigeaud, pareil. Regarde les premières journées de Bourigeaud qui avait la tête ailleurs.
Thomasson, le mec qui a la plus grosse caisse du championnat, capable de courir à 10 km en 33 minutes. Les spécialistes apprécieront. Physiquement, complètement à côté de la plaque sur le début de saison, de façon assez inexpliquée d'ailleurs. Bon,
John Dahl,
là il va pouvoir se refaire
vous
une petite préparation.
Vous n'avez pas de physique pour te l'expliquer dans ton club là.
On a mieux, on a mieux, monsieur. On a le monsieur performance, Dupont.
Et ben alors, il dit quoi Dupont? Pourquoi l'a-t-il cramé comme ça?
Parfois, écoute, Thomasson c'est un mec super sérieux. Bon, il se trouve que parfois, t'as des moments de moins bien. T'as une carrière, je sais pas. Quand t'as enchaîné comme ça, 10 ans de haut niveau, toi des fois quand tu prends 6-0, 6-1 contre Jérôme Bretagne, t'as pas d'explication.
Non, excuse-moi, là c'est mon ancien. Là c'est de la science-fiction ça. Il refuse même de jouer tellement là maintenant l'écart est trop grand.
Blessure de Niamsi en défense qui avait fait une énorme saison l'année dernière. Djikou, pareil, était un peu à l'envers à cause du mercato. On a perdu Gilbert qui était un très bon latéral qui n'a pas été remplacé. T'as quand même des raisons objectives, Thierry. Je suis là, t'es d'accord avec moi là, sur la liste que je fais.
Raisons objectives pour être 18e, non, j'en vois pas, mais bon.
Non, il y a des raisons objectives d'espérer. Pour moi, bon, c'est un peu mon joueur favori avec Ludo Ajork. Mais je te rejoins totalement sur Thomasson. Je pense que c'était vraiment le métronome l'année dernière. Là, on l'a pas vu depuis le début de saison. Et je pense honnêtement que aussi avec ce qu'on a connu en défense, bon, on va encore perdre Niamsi pour un match. Mais je pense que l'équipe est suffisamment structurée. Pourquoi pas même renforcer cet hiver? Je sais pas, un prêt ou deux d'un joueur qui joue pas trop dans un des gros championnats européens et qui viendrait se relancer à Strasbourg. Non, je pense qu'on a des bonnes raisons. On a un très très bon gardien. On n'en parle jamais. Matzel est très sous-coté, mais je pense qu'on a un très bon gardien. Et effectivement, si c'est Diallo se remet la tête à l'endroit, ça peut le faire. Et aussi, je pense qu'on a des équipes, heureusement entre guillemets pour nous. Je pense à Ajaccio. Je pense également à Angers, qui sont de toute façon derrière nous. Donc, je pense qu'on va se battre un peu avec des équipes Clermont, Reims, Brest. N'en déplaise à Daniel, ça sera un peu notre référence cette année. Mais je pense qu'on est mieux armé que toutes ces équipes-là que je viens de citer.
Merci Thierry. Bon, on va voir. Donc, je rappelle le tiercé de Flo. Nice, Angers, Lyon dans le désordre.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà.
Et je vous rappelle ma petite pièce sur Nantes. Je vous prierai de vous en souvenir.
Très bien, on verra.
Impossible.
On verra. De toute façon, tout ça est enregistré, évidemment. Dans un instant, le reste de la Ligue 1. Il y a pas mal de questions à se poser. Il faut qu'on parle un peu de Lille. On en parle assez peu des Lillois, les gars. Vous avez remarqué depuis le début de la saison. Et là, l'État a poussé un coup de gueule. Ce week-end, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Nantes, on voulait détailler également un petit peu. Bref, le reste de la Ligue 1, c'est au programme de l'After dans quelques instants. Et puis, je reviendrai également sur les incidents à Toulouse ce week-end. Nouveaux incidents dans un stade. Et on en sait plus aujourd'hui sur le profil des supporters qui ont été interpellés. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez étonnantes. À tout de suite dans l'After.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h34, Daniel Riolo est là, tout comme Florent Gautreau, messieurs, dames. Le reste de la Ligue 1, oui, les questions de la Ligue 1 du lundi, il faut qu'on parle de Nice. Donc on apprend aujourd'hui, surprise hein, tout de même, hein, hier on louait le
travail.
La palanquée de dirigeants lensois et le boulot qu'ils faisaient avec succès, et puis dans une espèce de comme ça d'entente cordiale tout à fait efficace et flamboyante avec les Gourlians, Aise et compagnie. Et là, on apprend que le directeur sportif, homme très important à Lens, Florian Ghisolfi, quitte le club.
Florent. J'ai tellement subi ça que...
Mais c'est vrai.
Pour lui, je le...
Tu te battras.
Tu te battras, très bien. Donc, il part à Nice. Alors, certains vont dire oui, bah alors c'est le projet sportif, hein, comme on dit souvent. Bah oui, Ineos quand même affiche de grosses ambitions, donc a de l'oseille. Alors vraisemblablement, c'est pas une décision qui a été prise comme ça en 24 heures. Hein, nous fait savoir Jean Bobel, c'est quelque chose qui donc était su à Lens et Ghisolfi n'a pas fait voilà une espèce de coup de Trafalgar comme ça ce matin. Alors c'est le nouveau directeur général de Nice, hein, Fabrice Boquet, ancien de Lorient, qui a suggéré son nom parce qu'ils ont bossé ensemble à Lorient, ces deux-là. Donc voilà la situation aujourd'hui. Mais bon, plutôt que de parler du départ à Lens, ce qui est intéressant, c'est plutôt de parler de son arrivée à Nice. Mmh. Rappelez-vous des déclarations de Dante il y a quelques jours qui disait en gros, on n'a plus de directeur sportif, c'est le bordel. Voilà, là, il y a réponse.
Comme disait Daniel,
réponse claire, quoi, de la part du gym.
Claire, oui et non. À partir du moment où il y a eu cette audite, tu sais, d'Ineos.
Oui.
Qui date, hein. J'ai plus les dates, mais on en parlait dans l'after avant même, presque la fin de la saison dernière. Soi-disant que le responsable du vélo, là, j'ai perdu son nom.
Dave Brailsford,
qui avait effectivement réussi dans le domaine de la performance, notamment du vélo, où tu as quand même quelque chose qui est très différent du foot, qui est, c'est toujours intéressant dans n'importe quel domaine, tout l'organisationnel, ils savent faire. La spécificité du foot est quand même particulière, notamment dans les recrutements, dans les réseaux, dans les transferts. Quand ils font cet audit, qu'ils se rendent compte justement qu'il y a un souci global entre entraîneurs, directeurs sportifs et autres. Si dans l'audit, ils n'ont pas vu qu'il fallait justement avoir une pointure, quand tu décidais d'investir dans le foot à Nice, une pointure à ce poste-là, je veux dire, déjà, l'audit, il est moisi. Donc, l'audit n'avait pas vu ça. Et maintenant, en mois de octobre...
Autre théorie, l'audit a été fait par des gens qui voulaient poste. Tu connais l'histoire.
Non, mais surtout, c'est qu'ils ont donné le poste à Brailsford qui faisait une sorte de...
Ouais. Aux personnes qui a fait l'audit, ouais, c'est ce que je te dis. Combien de fois, t'as vu ça dans les entreprises, l'entreprise extérieure qui dit, oui, voilà, il vous faut un directeur général qui correspond totalement à mon profil.
Bah tiens. Mais je pourrais peut-être le faire,
je peux être dispo.
Sauf que t'as vu comment ça se termine.
Laissez-moi juste deux secondes, je consulte mon agenda, mais je suis dispo.
sauf que Brailsford, et là, tu vois, il sort au mur de la réalité du foot. C'est-à-dire que quelques semaines plus tard, la queue entre les jambes, t'es obligé d'aller faire un travail. Honnêtement, c'est pas digne. Une nouvelle fois pour Ineos, qui ne met pas, j'ai déjà dit, suffisamment de pognon sur la table pour ce club, qui n'a pas mis l'organisation adéquate. Je trouve que c'est quand même ultra amateur comme fonctionnement. Donc, tant mieux, parce que c'est un Ghisolfi, je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure, c'est un bon choix.
Amateur, mais si tu récupères un mec comme ça, c'est...
Mais c'est très bien. Mais je dis juste quand même que dans l'organisation tennisois, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait le bilan comptable, regarde le temps perdu. Et il n'en reste pas moins aussi qu'il va falloir mettre la main à la poche si tu veux vraiment faire de cette équipe un gros du championnat de France qui était l'objectif annoncé.
C'est toujours l'objectif, j'imagine.
Oui, c'est toujours l'objectif, mais je trouve pas que les moyens soient à la hauteur de l'objectif.
Ils prennent Ghisolfi parce que il y a un marché des directeurs sportifs aujourd'hui. Le directeur sportif, celui qui trouve les bons joueurs, qui arrive en fait à faire ce que Luis Campos appelle la constitution d'un puzzle. Guizolfi a montré à Lens qu'il a fait un travail absolument formidable d'une équipe de Ligue 2. Il a fait une équipe qui joue les premières places en Ligue 1. Il arrive à composer le puzzle, à mettre les pièces les unes avec les autres. Nice, à partir du moment où ils veulent un gars compétent, c'est normal qu'ils aillent le chercher. Ils ont de l'argent pour le payer, donc ils le délogent en le payant plus. Guizolfi, j'imagine que ça a joué quand même un petit peu, est un homme du Sud. Peut-être que retourner vivre au soleil, ça a également compté un petit peu. Il avait fait son temps aussi à Lens, il a besoin d'une autre aventure. Ceci dit, je reste choqué parce que ça arrive là en cours de saison, que je pense que ça va faire mal à Lens et que j'espère qu'ils vont trouver un type de cette dimension-là, parce que c'est un homme essentiel dans ce club, hein, vraiment.
Juste un mot pour finir sur Nice. Si tu le prends dans l'autre sens et dans le sens un peu plus inquiétant et ce qui est à mon avis le plus réaliste, qui est que Ineos, tout en le disant, le proclamant, ne met pas suffisamment de moyens dans l'aventure football, hein, puisqu'on sait que le patron Radcliffe a plus des vues sur le championnat anglais que sur le championnat français, hein, à la base. Si tu prends Guizolfi, tu prends aussi un monsieur malin. Quand tu prends quelqu'un de malin,
ouais,
de compétent,
qui recrute pour pas cher, qui a des bonnes pioches, quoi.
Ouais, justement, si tu vas jusqu'au bout du raisonnement, tu peux considérer que si tu prends Guizolfi, tu actes aussi le fait que tu vas essayer de rester relativement modeste sur ton enveloppe parce que tu vas essayer de faire des bons coups et que tu ne développes pas donc le vrai grand projet d'un club qui va balancer des millions pour, tu vois, être vraiment le rival du Paris Saint-Germain ou pour jouer le podium. Donc, quelque part, c'est en adéquation avec, on va dire, la modestie pour l'instant de ce que fait Ineos avec Nice. C'est un bon coup sportivement parlant, mais c'est pas forcément. Ça vient valider le fait qu'il n'y aura pas forcément la grande aventure et le grand projet niçois avec énormément d'argent sur la table pour en faire le vrai rival du Paris Saint-Germain, comme ça a été à un moment donné annoncé.
Hugo est là, supporter niçois. Hugo, bonsoir.
Salut à tous, ça va ?
Salut Hugo.
Guizolfi, pour toi, excellente nouvelle ou tu te dis, c'est pas à l'envergure de Nice, quel est ton avis ?
Non, parce que j'ai jamais, enfin, ça a toujours été, en tout cas, selon les dires de Rivière, que on n'allait jamais être un Paris Saint-Germain, justement. Lui, ça a toujours été sa ligne de conduite, de construire les choses petit à petit.
Ineos moins, quand même, hein.
Non. Ineos moins, oui, mais Ineos, c'est pas ceux qui sont directement la main dans le cambouis, on va dire. Ils laissent les clés de loin, quand même. Donc, ça va, bonne nouvelle. Je veux dire, on pouvait difficilement avoir mieux aussi, parce que au final, on est pas très bien embarqué dans cette saison. Ça va être compliqué de jouer l'Europe. Là, je trouve que le choix est plutôt intelligent et bien. Et si on veut se développer qui est un choix pour se développer petit à petit, quoi, construire des bases solides, quitte à après, si tout tourne bien, prendre un directeur sportif plus huppé, on va dire, avec un plus gros carnet d'adresse, et si on arrive à se qualifier régulièrement en Ligue des Champions, à jouer régulièrement le podium, etc. Là, c'est ce qui aurait été une grosse erreur, en fait, j'entendais, c'est de dépenser justement beaucoup d'argent dans un mercato sans directeur sportif. C'est-à-dire que on répète toujours la même chose, mais jamais Galtier aurait pensé pouvoir aller au Paris Saint-Germain. Ça arrive, tout le monde est trop dépourvu. Les pistes cherchées par Fournier volent en éclats. Et au final, ça aurait été une bêtise d'acheter n'importe quel joueur à n'importe quel prix, quitte à le payer de manière ultra démesurée, pour pouvoir ramener du joueur UP sans l'aval d'un directeur sportif qui construit un projet cohérent. Là, ça aurait été juste Ineos à la manette, on achète.
Maintenant, Guizolfi, attention, il se met en danger, hein, de mon point de vue. Parce qu'à Lens, il était en place, il a réussi. Là, que va-t-il se passer à Nice? Il va falloir qu'il prenne aussi une envergure par rapport à ce qu'il faisait à Nantes. Ah, à Lens, pardon. On va voir ce que ça donne, Hugo.
Alors, j'ai entendu Daniel qui disait que oui, c'était pour un projet. Oui, apparemment, il a de la famille en Corse aussi. Donc, c'est aussi un choix.
Oui, alors, il est des Bouches-du-Rhône, en fait. Hein, il a joué à Bastia longtemps.
Donc, c'est un choix aussi personnel. Il prend du risque. Là, je veux dire, tout le monde s'est accordé à dire qu'ils veulent construire un. Moi, s'il y a Favre, Rivière, et puis son voilà Bouquet aussi qui a glissé son nom, qui je pense pas qu'il prenne tant de risques que ça. Je pense que justement il va pouvoir là c'est justement bien pour nous qu'on le prenne maintenant, comme ça il va pouvoir déjà plancher sur la saison prochaine. Parce qu'un mercato, il va falloir qu'on prépare.
Oh, saison prochaine, non. N'oublie pas, Flo a dit un truc important tout à l'heure. Je crois vraiment qu'il y a une deuxième saison dans la saison qui démarre pendant la Coupe du Monde.
Merci,
regarde le nombre de joueurs que tu vas perdre, et je pense que Nice va pas en perdre beaucoup. C'est une nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouvelle préparation physique, recrutement dès que le mercato d'hiver va commencer. Vraiment cette saison, il faudrait le répéter sans arrêt tous les soirs. Elle est vraiment très particulière, très très particulière cette année qu'on va vivre.
Hugo, merci beaucoup. Dans quelques instants, on parle de Lille.
On dira un mot de la mairie de Paris ou pas?
Et de la mairie de Paris, bien sûr, qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'étrangers.
Hein. Ça quand même.
Tiens, il y a les temps qui auraient dû bosser à Nice.
Pendant la Coupe du Monde de Qatar.
Les temps et Rivière.
Ah, pas mal.
Ça, mais c'est Rivière.
Ah oui, non, ça marche pas.
Ouais.
T'as voulu nous la faire à l'envers, là.
C'est que ça allait passer. C'est vrai, ça passe pas.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là, les gars. Lille. Ah, Lille, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on traverse pour l'instant la saison un peu de façon anonyme. Je vais vous lire un message de Jean. Parce que là, Lille, on s'est un peu réveillé ce week-end après les déclarations de l'étang suite à la défaite à Lorient, qui a dit voilà, mise au point, là, on va serrer les boulons et tout. Jean nous écrit sur Direct Juillet, dit moi, je suis lillois. Et en fait, l'étang, je ne le comprends pas. Il voulait du jeu, bah, on en a.
Ouais.
Ok, c'est risqué. Ok, on a 4 défaites, mais le contenu, bah, on l'aime bien à Lille. Et bah, si l'étang veut des résultats, bah, il a qu'à investir. Fonte, il a plus 20 ans, il joue sûrement sa dernière saison, nous écrit Jean. Quant au recrutement, bah, Zeliatka, bah, il est pas au niveau. Martin, il est inutile. On voulait du jeu, on en a. Un recrutement ciblé et en accord avec le coach. Bah, espérons que Lille reviendra la saison prochaine. Donc, est-ce que vous suivez Jean ou est-ce que vous êtes plutôt sur l'étang qui est pas
content? Je comprends ce que dit Jean. Et je comprends l'étang dans son coup de colère hier. Pourquoi? Parce que, franchement, Lorient, qu'on félicite chaque semaine pour ses prestations, hier, ils font probablement leur plus mauvais match. Ils gagnent. C'est très, très bien payé pour Lorient hier. Et à la place de l'étang, surtout quand ils ont été à 11 contre 10, je me dis, ce soir, j'ai 13 points. Ce match, vraiment, je peux le gagner. C'est nous qui devons le gagner, ce match. On serait à 16, donc collé au cul de Monaco à la 6e place, tout à fait honorable, et on continuerait d'avancer, malgré quelques soubresauts et des résultats qui n'ont pas toujours été favorables. Et je crois en fait que dans le parcours de Lille depuis le début de la saison, il y a un ou deux matchs, j'imagine que les dirigeants doivent se dire ça aurait dû tourner autrement et on pourrait avoir 3-4 points de plus. Et 3-4 points de plus, ben ça te mettrait, comme je te disais, à la 5e place. Et c'est ça qui doit, à mon avis, engendrer une frustration. Parce que, oui, ça joue plutôt pas mal. Oui, le match à Lorient, ils sont mieux que Lorient. Lorient s'en tire. Bon, ben, ils sont dans une passe et dans un dynamisme assez absolument incroyable. Et l'Orientais, ils sont allés gagner un match de façon très, très étonnante. Mais c'est pas si mal. Et dans un championnat où les équipes n'avancent pas, ils sont 8e, 13 points. Ils n'ont que 2 points de retard sur Rennes qui est 6e et 4 points de retard sur Monaco qui a 17 points à la 5e place. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de catastrophique. Il y a des endroits dans l'équipe où oui, ça semble un peu faiblard, mais d'autres où tu vois qu'il y a des bons joueurs. Parce que quand ça tourne, bah, Jonathan David, c'est un bon joueur. Bamba, Cabella, c'est pas mal, Lille. C'est dans notre championnat aujourd'hui. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, hein. Attention, hein. Ouais, je serais pas catastrophé.
Moi, je suis
catastrophé à leur place, hein.
Moi, je suis assez, quand même,
ton avis.
Assez d'accord avec Jean. Pas tout à fait d'accord avec Daniel, parce que ce qui me gêne dans les interventions de l'étang là maintenant, que je suis depuis un moment, et je l'ai souvent parfois félicité même pour des recrutements qu'il avait fait, c'est cette nervosité incarnée aussi par Sylvain Armand sur le bord du terrain, oui, un ça, peu permanente.
Mais ça, t'as raison là-dessus.
Cette façon au match le match d'aller se féliciter du parcours et puis s'énerver après parce qu'on doit pas être à cette place.
Je pense que là, il y avait une frustration, rapport à la façon dont ça a tourné hier. Coach, j'aimerais que tu envisages le fait que ça puisse être ponctuel pour hier.
Peut-être, mais
parce que le match, la façon dont il tourne hier à sa place. Ouais, moi, je pense que je suis gonflé aussi.
Mais là, tu vois, tu fais justement ce que fait l'étang, c'est-à-dire que sur un truc ponctuel, et bien sûr, ça peut arriver.
Ouais, il peut.
Oui, mais la récurrence de ce genre de coups de pression et de coups de gueule, comprends mieux les problèmes qu'il y a pu avoir entre entraîneur et président quand à l'étang.
Ça, là-dessus, t'as raison.
Eh oui, mais ça, au
quotidien, lui, il est très interventionniste.
Tu prends Fonseca. Fonseca, là, avec son projet, il a raison, Jean. Il te dit, bah voilà, il y a un souci, il n'y avait pas de jeu. Moi, en tout cas, je vais vous proposer ça. D'ailleurs, ils assument la défaite contre le PSG à ce titre, en disant, on a pris cher, mais bon, c'est l'idée de cette année. Donc, voilà. Moi, hier, je note aussi, effectivement, que contre Lorient, je fais une analyse un peu différente. Oui, Lorient n'a pas fait son meilleur match, mais quand même, t'as Lorient en face qui te balade un peu. Puis, quand t'es en ce qu'on te dit, tu dois gagner, certes. Mais Fonseca fait tout pour gagner quand il fait ses changements. Il se mange un contre derrière, tu perds. Mais si t'as un peu de recul et pas la volonté de mettre des coups de pression permanente, ce qui est un petit peu, à mon avis, le défaut de l'étang, eh ben, tu dis, ok, pas de panique, tu l'as dit toi-même à la fin de ton raisonnement, tu as le classement qui est là, tu as le jeu, tu as un bon entraîneur. Non, mais sauf que t'as pas de panique, et d'un autre côté, l'étang, avec son porte-flingue à côté, j'ai l'impression toujours, Armand, qui l'an dernier a fait n'importe quoi sur le bord du terrain, tu dis, mais les mecs, calmez-vous. Ou alors, assumez, comme le dit Jean.
Je pense qu'il y a un peu de tension, parce que le week-end prochain, il y a
tendus.
Le derby.
Ils sont trop tendus.
Il y a le derby. Et ce match-là, je pense qu'ils l'attendent.
Match du dimanche soir, en plus, tu vois.
Ils l'attendent avec beaucoup, beaucoup de tension.
Parce qu'ils ont vu Lens.
Parce que Lens invaincu, parce qu'ils reçoivent. Et parce que peut-être ils le prennent comme une sorte de virage.
Ouais, mais
là, on gagne.
Ouais, mais regarde, Daniel, si on suit ton analyse, en te mettant dans les. Puisque c'était ton petit jeu, en te mettant finalement à la place de l'étang. Moi, je dis attention à ces réactions permanentes
oui,
tous les deux matchs.
Un petit coup de colère,
alors le cinquième match, j'ai pas aimé là parce qu'on aurait pu gagner. Le match contre Lorient, on était 11 contre 10. On a mis un coup de pression aux joueurs. Attention, il y a le derby. Putain, si on perd le derby avec deux buts d'écart. Eh les gars, si tu veux mettre la pression à ton coach, prends pas Fonseca parce que lui, évidemment, de par son fonctionnement, il va effectivement te prendre une ou deux défaites un peu cuisantes parce qu'il hésite pas et que parfois c'est un peu dur. On parlait de l'adéquation entre un entraîneur et son président. Tu vois, on parlait de Longoria qui soutient Tudor, etc. Ben, il faut aussi que, s'il est temps, il prend Fonseca, il accepte aussi le coach tel qu'il est, et que pas au bout de la 9e journée, tu viennes lui mettre un gros coup de pression.
Je suis pas en désaccord avec toi, j'avais envie de le comprendre pour hier parce que le match, je trouve, pouvait engendrer beaucoup de frustration. Il y a le derby qui arrive, bon, après, ils ont un match facile derrière parce qu'ils vont à Strasbourg. Donc,
qui sera en renouveau. Si tu fais le scénario inverse, ils se prennent Lens dans la gueule et ils prennent le Strasbourg en renouveau.
Et dans la foulée, ils rejoignent en prime time Lille-Monaco.
Ah, c'est sûr qu'ils ont. Ah, c'est pas si facile.
Eh oui.
Il nous reste 5 petites minutes. J'ai quelques infos encore à vous faire partager. Oui, je vous parlais des fameux incidents du match Toulouse-Montpellier. Donc, aujourd'hui, bilan des interpellations en marge de ce match. Et figurez-vous que parmi les 15 personnes arrêtées, alors il y a des Montpelliérains, mais aussi des Toulousains, on a 3 mineurs toulousains, 13 ans, 14 ans, 16 ans, identifiés pour usage de fumigène. 13 ans! Mais là, incroyable quand même. 13 ans, usage de fumigène au stade à Toulouse.
Et que font les parents? Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, ils ont été interpellés aujourd'hui, donc ils vont passer un sale quart d'heure. Voilà, il y a eu 15 personnes interpellées en tout, notamment une bagarre autour de la buvette visiteur avec la police. Donc voilà, on parle. Il y a plus de supporters montpelliérains que
Toulouse. On est en semaine de Ligue des Champions, la semaine prochaine également. Dans donc 2 semaines, il y aura une semaine un petit peu calme. Je te propose qu'un soir, on parle de la sécurité dans les stades parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à parler et à expliquer comment on forme les mecs aujourd'hui, pourquoi on les trouve pas et que font les clubs. Donc, je te proposerai un ou deux témoignages et qu'on fasse un thème autour de la sécu dans les stades.
Exactement.
Parce qu'il y a un peu trop d'incidents quand même en France pour que ça n'ait pas une explication.
On repart globalement sur le rythme de l'année dernière.
Mais il y a une explication à ça. Ce n'est pas par hasard. Il y a une explication. Il y a aussi des gens qui ne font pas bien leur travail.
Bon, et puis
donc
aussi,
je te propose qu'on explique ça, qu'on sera sorti de la période, de la séquence Ligue des Champions.
Arrête, c'est horrible. On sait aussi que le secteur de la sécurité aujourd'hui est sinistré, il n'y a plus personne qui veut y travailler. Donc,
c'est pour ça que je te dis que ça mérite qu'on s'attarde sur cette question et je te propose des témoignages.
Et surtout, on a fait depuis la saison dernière, quelque part, on a mis des bouts de sparadrap. C'est-à-dire qu'on a privilégié, on a essayé de faire en sorte que les clubs soient mis sous pression pour empêcher les jets de projectiles sur le terrain, en gros pour protéger le spectacle et les joueurs. Mais ce qui n'empêche pas que les incidents, sans aller jusqu'à toucher le terrain, continuent en tribune ou dans les travées des stades ou autour du stade.
Et c'est pour ça que je vous propose des gens compétents pour en parler. Vous voulez que je vous le redise encore 10 fois?
On le fera d'ici 15 jours, dans 2 semaines, quand tu auras
de la double séquence. La double séquence Coupe d'Europe.
C'est double séquence, est-ce que c'est vraiment une séquence? C'est une période.
C'est deux séquences
séparées par un tiret.
Ah, une séquence, c'est, tu veux dire, c'est plus petit que la période?
Oui.
Eh, forcément.
Donc, l'affaire des écrans géants continue. Ce soir, c'est la ville de Paris qui a expliqué qu'il n'y aurait pas d'écran géant pendant la Coupe du Monde à Paris. Donc, en gros, tout le monde suit.
Moi, j'attendais Paris. Franchement, j'attendais parce que.
J'attends qu'une ville se lève et dise ah ben nous, il y aura un. Pour l'instant, personne ne le fait.
Urnik, Strasbourg, machin. Bon, ok, là, je savais.
Les villes écolo, tu veux dire, c'était assez.
Un petit peu parce que là, c'est logique. Un petit peu couru d'avance. Mais j'attendais Paris. Là, j'attendais Paris. Là, franchement, je me suis dit, ils vont pas quand même oser. Et là, ça m'a ramené, forcément, le 5 février 1669, Molière a créé Tartuffe. Mm-hmm. Et j'inviterai tous les dirigeants de la ville de Paris, lorsqu'il y aura une prochaine représentation, ou à la Comédie Française ou ailleurs, à aller, ou peut-être ils peuvent acheter la pièce et la lire, cette pièce de Molière, qui avait pour but notamment de faire en sorte que les hommes cessent d'être des hypocrites et des faux dévots. Parce que là, je pense qu'on touche le fond. Tartuffe, d'ailleurs, c'était le titre, mais en fait, le titre complet, c'était Tartuffe ou l'imposteur. Donc, je trouve que ça colle parfaitement à la maire de Paris.
1669, tu dis?
Oui, 1669.
Ouais. D'accord. 5 ans après une date très importante en Alsace.
Là, je pense que pire que ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Le plus grand numéro qu'une bière puisse vous faire. Voilà. C'était le slogan à l'époque.
Là, c'est ces gens qui pratiquent le signalement moral, là, qui essayent de se raccrocher aux branches pour imposer de nouvelles normes ou aller dans le sens du vent. Mais qu'est-ce qu'elle va dire quand elle sera en tribune présidentielle à côté de Nasser Al-Khelaifi, quand elle sera invitée, elle qui soutient le PSG depuis 10 ans, qui a toujours trouvé formidable que le Qatar s'occupe du Paris Saint-Germain.
Elle était reçue par l'émir au Qatar aussi.
Le club
aussi.
De sa ville.
Elle est allée
qui a reçu, exactement, qui est allée là-bas. Elle qui a dans Paris tant d'établissements qui économiquement fonctionnent grâce au Qatar. Mais est-ce qu'on peut être plus hypocrite? Est-ce qu'on peut faire pire que ça? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment cette dame a été réélue. Je sais qu'elle a fait 2% au présidentiel dans Paris. Donc, je sais pas. À mon avis, il doit y avoir une double billetterie à Paris. Non, mais je sais pas comment c'est possible, quoi.
Elle a été élue.
Je sais pas qui peut encore.
En France, on a quand même des élections transparentes.
Je sais pas qui peut encore soutenir cette personne et au nom de quoi quand on voit les décisions qui sont prises et cette hypocrisie généralisée. C'est absolument fantastique d'apprendre ça aujourd'hui, vraiment.
Et puis alors, bon, il y a aussi le fait de mettre ses excuses en avant pour, en gros, aller dans le sens du vent aujourd'hui. Il y a aussi un maire qui demain pourrait dire, en toute honnêteté, écoutez, un écran géant le 5 décembre quand il fait moins 10, ça va me coûter cher et il n'y aura personne.
Il y en a un qui l'a fait aujourd'hui, qui a dit, ça coûte cher. Même si avec les LED maintenant c'est pas trop énergivore, et la sécurité autour ça coûte cher.
Oui.
C'est Arnaud Robinet de Reims.
Et il y aura pas
pris d'argument si tu veux politique, il a dit
qui va aller voir un match par 0 degré devant un écran géant.
Ouais, avec lui ça coule
tout seul.
Il y a pas de fuite.
Mais en fait, j'adore
que le PSG remporte. C'est gagné. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ça va aller vite ce soir.
J'adorerais que le PSG refuse l'entrée d'Hidalgo au Parc des Princes. Ça me ferait tellement kiffer.
Et Cédric Villani aussi.
Et il y avait 11 joueurs de l'équipe de l'After au départ du deuxième tour de ce Survivor, tous qualifiés.
Oh merde.
Ceux qui ont joué Paris, ceux qui ont joué Marseille, Daniel avait joué Toulouse pour faire le malin. Il est qualifié.
Pour le malin? Pour le panache?
Encore
pour garder des cartes. Touche.
Encore 747 joueurs.
J'ai une cartouche OM. J'ai une cartouche PSG encore. Je suis à l'aise.
Demain, Ligue des Champions à partir de 18h dans Rotten sans flamme, l'OM à 18h45, l'after jusqu'à 00h30 comme lors de chaque soir de Ligue des Champions. Bonne nuit à tous, à demain.
RMC, l'after foot.